grâce à ses nombreuses musiques stockées en mémoire.
Votre cerveau, saison 10, les pouvoirs de la musique. Réalisation Charlotte Roux, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
En mars 2021, sur France Culture, LSD, la série documentaire, diffusait quatre émissions signées Perrine Kervran et intitulées « Ménopause pour tout le monde ». Je voudrais vous en dire un mot, d'abord parce qu'elles sont formidables, et ensuite parce qu'elles ne sont pas sans lien avec notre sujet du jour. Le premier épisode de cette série, culte, s'appelle « Ménopause tralala ». Puisque ce n'est pas a priori un sujet très glamour, je vous l'accorde, et qu'à la base on n'a pas super envie d'en arriver là ni d'en entendre parler, en attendant que ça change, Perrine Kervran en a donc fait une comédie musicale, la ménopause chantée par celles qui l'ont vécue. Il y a des tubes des années 80, une chorale qui s'appelle Hot Bodies, et aussi des témoignages de femmes de tous milieux et de toutes origines sur ce drôle de passage qui peut réveiller la colère autant que la sensualité. Et puis, pour parler de ce moment de la vie des femmes encore bien tabou, trois autres épisodes, La femme invisible, La ménopause n'est pas une malédiction et Une sombre histoire d'hormones. La coïncidence amusante sur notre chaîne, enfin le génie de la programmation, pardon, c'est que la même semaine, Les Chemins de la philosophie proposaient également une série sur le corps féminin. Philosophie du clitoris, l'utérus sur le divan, phénoménologie des seins, à ne pas manquer non plus. Une façon d'annoncer par ce feu d'artifice féminin et féministe la Journée internationale des droits des femmes, riche donc en propositions, et c'était en mars 2021, je viens de vous le dire. Alors, là où je veux en venir, c'est que, au pied sur terre, nous nous sommes dit quand même à ce moment-là que les pauvres, ceux qui mettent les couilles sur la table, comme dirait Victoire Tuaillon, il faudrait qu'on fasse quand même un geste pour eux. D'ailleurs, Victoire Tuaillon elle-même a arrêté ce podcast sur les masculinités pour se tourner vers l'amour en général. Et comme on avait déjà fait la calvitie, la lipopénosculture, c'est-à-dire la chirurgie esthétique du pénis, les hommes violents et la toute-puissance du patriarcat, nous nous sommes tournés, nous aussi, vers les hormones. Tout de suite donc, trois histoires autour de l'andropause racontées par des hommes hétéros et cisgenres, pas ceux qui sont les plus féministes ni les plus woke, mais qui lèvent un coin du voile sur un autre tabou, les troubles de l'érection et de l'éjaculation, pour appeler les choses par leur nom. Sophie Simoneau est notre reporter aujourd'hui pour notre journée de l'homme à nous.
Je m'appelle Gilles, j'ai 65 ans, j'habite à Menton, je suis retraité. Après avoir été longtemps infirmier en psychiatrie, ma première relation sexuelle a eu lieu, je crois, vers 19 ans et a été un total échec. Je ne sais pas si c'est pour beaucoup d'hommes comme ça la première fois, mais ma première fois, elle a duré quelques secondes avec une éjaculation plus que précoce. Et après, je me suis pris une réflexion qui m'a miné. La copine m'a dit, non, tu comprends, moi ça me convient pas, j'ai besoin d'un homme qui peut durer, etc. Et je me suis pris une raclée, puisque pour une première fois où on ne sait rien faire, où j'étais assez naïf sur le sujet, ça a été assez douloureux, je dirais. Et comme j'étais déjà quelqu'un avec pas une forte confiance en moi, pas spécialement sur ce sujet-là, mais globalement, ça a probablement conditionné une partie de ma sexualité après, même si elle a forcément évolué avec le temps. Alors après cette première fois, alors je ne sais pas si c'était dans la recherche d'être à la hauteur, je suis tombé amoureuse d'une jeune femme, mais qui était 4 ans plus âgée que moi. Elle m'a tout appris, si je puis dire, ou beaucoup appris. Elle m'a aidé à dépasser ce premier échec, mais le questionnement pour moi est toujours resté, alors que ça se passait très très bien, et d'ailleurs ça s'est passé toute ma vie très très bien, à part ma première fois à 19 ans, je n'ai jamais eu de critique d'aucune de mes partenaires, c'est toujours moi qui me suis remis en cause avec une certaine inquiétude. Ma grosse angoisse, et je pense qu'elle a perduré extrêmement longtemps, c'est de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur, c'est ne pas être capable de faire la même chose qu'un acteur porno. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à moi, mais on a toujours l'impression que quand on est un homme, on doit accéder à un niveau de performance, sinon on n'en est pas. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est complètement débile. Ça n'empêche que c'est quelque chose qui, compte tenu de ma toute première expérience, moi, m'a toujours perturbé au niveau de... Je me suis toujours posé des questions. Après, j'ai eu une vie avec un certain nombre de compagnes, jusqu'à ce que j'en rencontre une avec qui c'est la seule où je suis resté pendant une quinzaine d'années, où nous avons une vie de couple tout à fait normale, une vie de famille tout à fait normale. Et puis, à un moment donné, le doute s'est transformé, si je peux dire ça comme ça, en insatisfaction. Mais pas pour elle, pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ma sexualité, elle n'était pas, encore une fois, à la hauteur. Mais ce n'était pas une plainte de sa part. Ce n'était pas que je n'arrivais pas à la satisfaire. C'était moi que je n'arrivais plus à satisfaire. C'est que j'avais envie de vivre autre chose. Et il se trouve que, du coup, comme ça a renforcé cette notion de ne pas être à la hauteur, à un moment, je me suis dit, il faut que tu en aies le cœur net. Donc, il faut aller consulter. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous avec un médecin sexologue, andrologue, qui, elle, m'a fait faire un examen sanguin pour tester mon taux de testostérone. Et là, donc, on s'est aperçu que j'étais en sous-dosage. Et donc, du coup, elle m'a proposé un traitement hormonal. Et donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis ce traitement. Ça a énormément changé de choses pour moi. Pour faire court et parler cru, comme parleraient les hommes, dès qu'on a un doute, oui, ça débande. Et quand on a un taux de testostérone qui est correct, finalement, on bande bien et ça facilite la relation. Concrètement, c'est que je suis plus tout le temps en train de me poser la question, est-ce que je vais y arriver ? Donc du coup, j'arrive détendu dans le rapport, ce qui ne veut pas dire qu'il est toujours parfait, mais ce qui me permet de ne pas m'auto-accuser de déficience. Donc du coup, de ne pas anticiper que le prochain, je vais encore le rater. Parce que physiologiquement, ça fonctionne tout à fait normalement, mais c'est surtout que, comme à chaque fois qu'on a un problème médical, dès qu'on a une réponse concrète, psychologiquement, on va nettement mieux. Le fait de me dire, c'était peut-être ça qui me faisait que j'avais des doutes et que j'y arrivais pas, même si c'était sûrement pas que ça, mais ça a quand même fondamentalement changé ma vie, d'autant plus que au moment où j'ai fait ce traitement, j'ai aussi changé à ce moment-là de compagne, et j'ai eu à ce moment-là une relation pendant un temps assez bref, mais avec une personne qui correspondait à une recherche que j'ai toujours eue depuis ma jeunesse. C'est une gestuelle, un comportement, une prise d'initiative. C'est une caricature, ce que je veux dire. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais c'était n'importe où, n'importe quand. Il y avait une facilité. Il y avait un jeu. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de se dire qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel moment, dans la voiture, en roulant, n'importe quoi. Enfin, on peut faire des tas de choses. C'est quand même pas si courant que ça. Pour moi, ça a été une révélation. Et c'est grâce à cette personne-là que j'ai enfin... D'autant plus qu'il y avait le traitement, donc du coup, le doute n'y était pas. Donc avec elle, je pourrais réussir. Donc tout fonctionnait bien. Et donc avec elle, c'est la première fois, j'avais quand même 60 ans, où je me suis senti vraiment un homme, sexuellement parlant.
C'est quoi un homme ?
Quelqu'un d'accompli. C'est peut-être là où la notion de performance, c'est une vraie connerie. C'était un accomplissement personnel. Ça se passait comme j'en avais envie. Je m'amusais comme j'en avais envie. Et c'est vrai que si on n'est plus ensemble avec cette personne... Au jour d'aujourd'hui, ma sexualité est beaucoup plus épanouie parce qu'il y a eu cette progression qui est arrivée sur le tard, mais qui fait que même si la personne avec qui je suis maintenant ne fonctionne pas sur le même modèle, par contre, on a une capacité qui, elle aussi, est extrêmement favorisante. On peut se parler de tout, on peut se dire ce qu'on a envie. C'est aussi avec elle très simple. Je ne sais pas si le doute permanent venait de la testostérone. C'est possible qu'il ait participé. C'est-à-dire que je me demande si la personnalité un peu timide, timorée, même quand j'étais jeune, n'est pas liée à un manque de testostérone. Parce que finalement, ça doit bien jouer. Le taux de testostérone doit bien jouer un rôle comme n'importe quelle hormone, dans le comportement et la personnalité de n'importe quel homme. Mais je crois qu'une des plus belles choses que j'ai vécues, c'est cette possibilité, parce que j'ai eu ce doute, puis après que j'ai rencontré ces gens fabuleux qui m'ont pris en charge, et que ça m'a appris à réfléchir à ce sujet et à en parler, et à être capable de parler avec mes partenaires, d'obtenir une qualité de relation qui est une vraie découverte, quoi. C'est fantastique. Donc aujourd'hui, j'ai 65 ans, je me sens vraiment épanoui sexuellement et je suis extrêmement heureux d'en être arrivé là.
À 65 ans, comme quoi,
hein. Oui, comme quoi tout peut arriver. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on vieillit, on ne va plus pouvoir rien faire. Moi, je pense que je n'ai jamais été aussi heureux sexuellement que maintenant. C'est quand même une belle leçon de la vie. Ça c'est vraiment le grand bonheur, quoi.
Je m'appelle Marc, j'ai 66 ans, j'habite sur la Côte d'Azur et je suis retraité de la fonction publique où j'occupais un poste dans l'administration, j'étais électricien. Cette histoire peut démarrer par une enfance très heureuse. Quand j'étais petit garçon, donc j'avais une sexualité très très épanouie. J'en parlais à mes copains, ils étaient un peu dans le même cas. On avait des érections quand on croisait des jeunes femmes. Et puis j'ai commencé à un peu plus tard, vers 10, 11, 12 ans, je me rappelle plus. Donc j'ai commencé à avoir des grosses érections, avec éjaculation, avec tout ce qu'il fallait. Et la nuit, on se masturbait, on faisait des trucs, quoi. Donc tout allait bien, tout fonctionnait très très bien. La première fois que j'ai éjaculé, je pense que c'était dans un semi-rêve. J'étais chez moi, chez mes parents, donc bien sûr à cet âge-là. Et j'en avais plein les mains. Je suis allé au lavabo, je suis allé me laver en faisant le moins de bruit possible, et je suis allé me coucher. Et puis ça a recommencé le lendemain, le surlendemain, etc., etc., etc. Donc ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Entre 12 et 14 ans, il s'est passé un truc un peu bizarre. J'ai eu une espèce de fatigue, mais phénoménale, qui m'est tombée dessus. Mais une fatigue de mammouth, quoi. Moi qui étais toujours en train de gambader dehors, de jouer au foot, d'être avec mes copains. Et cette fatigue m'a dépoté, quoi. J'étais chez moi couché, sans savoir ce que j'avais. Donc, bien sûr, mes parents sont inquiétés. On a fait venir le médecin qui m'a donné, je ne sais plus quoi, il m'a dû me donner des vitamines, il disait, c'est l'adolescence, c'est, voilà. Une croissance qui était là et qui fatiguait le corps, quoi, en fait. Et avec ça, il m'est arrivé, je perdais les poils autour du sexe, quoi, mais alors par flouche. Donc il y avait une espèce de rétroactivité de mon corps qui refusait d'avancer plus loin vers la sexualité, je pense. J'en ai pas parlé bien sûr à mes parents parce que j'avais honte déjà de ce qui m'arrivait. Puis les choses ont dû se remettre en place un petit peu, plus ou moins, je suis arrivé à reprendre le cours de ma vie. En pensant que c'était fini, mais c'était pas fini du tout, en fait. J'ai grandi normalement, à peu près. Donc j'avais toujours une érection de cheval, ça m'a jamais quitté. Heureusement, d'ailleurs. Mais je n'avais pas d'éjaculation. Pour moi, tout allait bien, j'avais des érections. J'avais pas besoin d'éjaculation à cette époque-là, 14, 15, 16 ans. Et ça a duré de mes 14 ans jusqu'à ma première expérience sexuelle. La vraie, quoi. Donc la première s'est passée, j'avais 19 ans, je pense. Il y a eu un rapport pénétration, donc qui a duré, très longtemps, vu que je n'avais pas d'éjaculation. Je ne me suis pas expliqué tout de suite pourquoi ça ne marchait pas. Donc, en plus, avec cette fille qui allait devenir ma femme, parce qu'on s'est mariés, parce qu'on s'est fait scandir, entre parenthèses, chopé par la patrouille, c'est-à-dire que les parents sont arrivés à un mauvais moment. Donc à cette époque-là, ça rigolait pas. Paf, on s'est retrouvés presque mariés, pas de force, mais on nous a fortement proposé de nous marier. On n'était pas contre, en plus, parce qu'on était amoureux, donc très fleur bleue qu'on était, on voulait se marier, quoi. C'est avec elle que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même ce petit problème, enfin petit, cet énorme problème. J'avais envie de faire l'amour. J'avais l'envie de bander, mais il n'y avait pas l'apothéose au bout. L'éjaculation, donc. J'ai plus envie, je me suis senti un peu en échec, quoi. Voilà, à force de pas éjaculer, forcément, l'envie a baissé, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais un problème, quoi. Donc je suis allé voir un premier gynéco à... Toujours dans le contexte de l'époque, hein. Il n'a rien compris à ce que je lui ai raconté. Il a voulu m'envoyer chez un psychologue, j'y suis jamais allé. J'en ai vu un second qui m'a dit « Je comprends rien de ce que vous me dites ». Enfin, grosso modo, c'était ça. Donc moi, j'ai dit « Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, j'éjacule pas, point barre, quoi. » Là, c'est ouais, quand même lui de vous dire un truc quand même qui est hyper important, c'est qu'à partir de 20 ans, je suis passé d'adolescent à androgyne. Il n'y avait pas que la panne sexuelle, il y avait le fait que je me développais pas exactement de la même manière que mes amis, quoi. Physiquement, j'avais pas de barbe, j'avais des traits un peu plus fins, on va dire, un peu plus ado, un peu plus enfantin. Donc c'était des réflexions hyper désagréables, c'était des gens dans la rue ou en faisant les courses ou en plaisantant. Bonjour madame, je t'ai bien eu, hein, voilà, tu vois, des trucs comme ça. C'est plus que dégradant, il y a une déconnexion entre le fait de l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'on vous renvoie, quoi. Je me suis fait traiter d'ailleurs d'homosexuel, comme si être homosexuel, c'était ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Être homosexuel, c'est parce qu'on a envie d'être, parce qu'on est homosexuel. Moi, j'étais pas homosexuel. J'ai rien contre, au contraire, ça me dérange pas du tout. Hein. Mais j'aurais été, je m'en foutais. Hein. C'est, on lui dit, oui, ben, je le suis, et puis je t'emmerde. Mais là, je l'étais pas, donc... on sait plus trop qui on est, quoi, en bout de compte. Pour moi, j'étais homme, mais je me sentais pas à l'aise dans mon physique, dans ma virilité, dans mon corps d'homme, et on m'en rajoutait encore en plus, donc on me tassait encore un peu plus, chaque fois. C'est comme une échelle, il y a un barreau qui casse, un autre, puis... Pff, on se retrouve tout en bas. Je me coupais les cheveux esprit très courts pour avoir l'air plus masculin que je pouvais, parce que pour moi, ça faisait pas de doute et ça fait aucun doute. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne parce qu'on vous tue chaque fois. C'est comme si quelqu'un arrivait et puis voilà, il vous file un coup de Kalachnikov qui vous coupe en deux. Là, et je voulais que la terre s'ouvre, rentrer dedans et qu'on ne me voit plus, moi, quand ça m'arrivait. Panne de vie, voilà, pas d'envie, panne de vie, je dirais, moi. Et ça a duré jusqu'à mes 62 ans. Une dernière humiliation, celle-là, elle m'a fait très mal. Dans un magasin, je fais mes courses. La femme, elle me dit « Monsieur, vous oubliez ça ?» Et la dalle, il y en a une des deux qui a dû dire « Monsieur ou madame, on ne sait pas trop. » Et puis, il y avait un mec derrière qui attendait, qui était juste après les deux, qui a dit « Moi, je sais, mais je ne vous le dirai pas. » J'ai mis un truc un petit peu balourd, là, une espèce de jeune un peu... J'avais envie de poser mon chariot, de me tirer en courant, quoi. Mais bon, j'ai continué, j'ai dit stop, je peux plus là. Et par chance, 2-3 jours après, j'ai acheté le journal et il y avait un article qui parlait de la sexualité des sexagénaires, qui disait sur des problèmes de d'éjaculation, je sais plus ce que c'était. Bon, c'est ce que j'avais, quoi. Ça correspondait chaque fois qu'il y avait une case de cocher, je dis c'est moi. J'ai dit, bah, merde, alors on en repose. Mais c'est en fait ce que j'ai eu depuis toujours, quoi. C'est une andropause très précoce que j'ai eue, quoi. Donc, je suis allé voir cet andrologue, sexologue qui était dans le journal. Il m'a dit, écoutez, on va prendre le truc au départ, quoi. Il faut juste, voilà, c'est une question d'hormones, en fait, que vous n'avez pas, que votre corps ne fabrique pas. Donc, il ne fabrique pas de spermatozoïdes. Et c'est pour ça que sans éjaculation, forcément, et puis sans hormones, on n'a pas envie de bander, quoi. On n'est pas vraiment sexué. Et elle m'a dit, écoutez, on va commencer un traitement, puis ça va marcher. Elle m'a dit, vous allez voir, ça va vous faire pousser la barbe et tout. J'ai dit, oh, tiens, ça pouvait faire pousser un tatouage aussi, je serais fin fond à la mode. Donc, depuis le début, c'était un problème hormonal, tout ce que j'ai vécu. J'ai senti mon corps revivre. J'ai fait des choses que je faisais plus, c'est-à-dire j'ai repris le sport, j'ai eu envie de bouger, j'ai eu envie beaucoup, beaucoup de faire l'amour. J'ai retrouvé de la virilité, j'ai retrouvé de l'envie de vivre, j'ai retrouvé une amie, j'ai retrouvé, enfin plus qu'une amie, c'est voilà, une femme, avec un F majuscule. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de, comment vous dire, j'ai envie de vivre, quoi. Parce que sans ça, il manque un morceau, quoi. Et je sais pas ce que ça a changé, en fait, parce que j'ai mon ossature est toujours la même. Je veux dire, bon, ça m'a pas fait grandir le front, ni bon. Mais je sais pas, c'est mon aspect, c'est mon assurance, peut-être, aussi.
Donc c'est les hormones qui font l'identité.
En partie, oui, on va dire ça, allez, c'est un peu résumé, mais bon. Masculine, hein. Et bien, je vous dis, pas obligé d'avoir 10 sur 10. On a 1 sur 10, c'est bien.
De quoi, 1 sur 10 bah, de Dorman
sur l'échelle, oui. Sur l'échelle, si je me suis fait une échelle de 1 sur 10, si on a 1, ça, c'est bon, on a assez. Mais s'il ne faut pas, c'est avoir 0. Voilà. Et moi, j'avais 0. À 1, ça suffit, on est un homme, hein, pas de problème.
Je m'appelle Victor, j'ai 61 ans, je travaille dans la sûreté sécurité. J'ai évolué toute ma carrière dans le monde de l'armée, de la sécurité. Un milieu plein de testostérone, un milieu machiste aussi, un milieu très masculin. Mais à l'époque, il y avait une chose magique, c'est qu'on vous mettait dans la soupe du bromure. Alors c'est tout simplement un produit qui va vous permettre de vous enlever un peu la libido justement. C'était quelque chose de courant dans les régiments, pour calmer les ardeurs, tout simplement, des gars. Vous savez, quand on mettait un groupe d'hommes avec plusieurs kilos de testostérone, alors ça servait aussi bien pour le combat, c'est très important, pour les exercices, pour les entraînements, on en a besoin. Mais arrivé un moment, il fallait s'en débarrasser rapidement. Donc à un moment, soyons guerriers avec plein de testostérone, et à un autre moment, restez sages et au repos. J'ai une sexualité pas si fantastique que ça dans les premiers temps, puisqu'à l'époque, on ne couchait pas comme ça avec une femme. J'ai rencontré ma première épouse, avec laquelle on a eu... D'abord, on se fiançait, après, il y avait le mariage. C'était très chronologique. J'avais, je pense, une sexualité normale, avec un appétit assez important, oui. J'étais jeune, j'étais en pleine forme, donc c'était le plus souvent possible, de manière très vigoureuse aussi. J'aime la vie, j'aime le sexe, j'ai toujours une vie intense sexuellement. Ce qui n'a pas été, vers la fin, pas toujours évident. C'est vrai que la venue d'un enfant change aussi les choses, et elle était devenue... plus maman que femme, que maîtresse. Je doutais de moi-même. Ça m'est arrivé de douter, de dire, mais est-ce que j'exagère pas? Est-ce que je suis normal? Est-ce que... Non, j'étais un homme gourmand. On rentre dans un système où on est frustré. Pour vous dire à quel point, je ne sais pas s'il faudra le marquer, je suis retourné voir des professionnels. C'était une véritable soupape de sécurité. Ça permettait d'assouvir ses besoins, ses fantasmes, c'est retrouver une femme sexy, une femme qui est là pour vous, qui est là pour assouvir vos besoins, vos envies. C'est un partage aussi, et c'est vrai que j'ai trouvé un véritable confort avec les professionnels. Je n'hésitais pas à lui demander ce que je souhaitais, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout simplement, je suis fanat des sous-vêtements, je suis féminin, je suis fanat de... Des fois, quelques mots crus, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi. Voilà, c'était un échange aussi verbal. Moi, c'était pas là, arriver, payer, tirer mon coup et partir. Et elles appréciaient énormément aussi. Elles me faisaient pas, elles me disaient, mais des clients comme ça, c'est que du plaisir. Et arrivé un moment, elles-mêmes me disaient, mais c'est pas possible, tu dois payer pour faire l'amour. Tu es un beau garçon, tu es magnifique, je comprends pas. Voilà, et bien entendu, ça a été la... À ce moment-là, j'ai pris la décision de quitter ma... Nous avons pris, parce que c'était un commun accord, ma première femme. Après, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon épouse, avec laquelle je suis toujours et encore et pour longtemps, j'espère, avec. Nous avons trouvé une harmonie parfaite, sexuellement. Beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est l'amour aussi. Sans amour, il ne peut pas y avoir une harmonie parfaite sexuelle, c'est pas possible. Et on s'est construit au fur et à mesure ensemble. Dans une première partie de notre vie, on s'est fait plaisir. Et en 2012, je commence à avoir des problèmes de santé, je fais des examens et on découvre que j'ai un cancer. Ça a été complexe, ça a été difficile. J'ai eu la chance d'avoir été très très bien soigné. Et à l'issue de ces chimios, de ces soins, je me suis aperçu, reprenant du poil de la bête, que ma libido était complètement à zéro. Plus d'érection. Ça a duré 7 ans environ. J'en parle très souvent à mon oncologue, qui m'a proposé d'aller voir une andrologue sexologue. Et très rapidement, en rien de temps, elle découvre à travers des analyses sanguines que ma testostérone est totalement à zéro. Elle m'a prescrit des injections d'hormones. Aujourd'hui, certes, je n'ai plus la vigueur que je pouvais avoir à 30 ans, à 40 ans, mais j'ai retrouvé une vigueur. Et je bande tous les matins et je suis très heureux de ce phénomène magique. Et cela me rassure. C'est-à-dire, vous êtes un homme. C'est une forme de renaissance. Vous avez un cancer, vous tombez au plus bas, vous avez une chimio, elle vous détruit. Pendant de nombreuses années, vous êtes en grande difficulté sexuelle. Ça vous fait réfléchir. Hein. Est-ce que l'essentiel, c'est le sexe? Est-ce que l'essentiel, c'est votre vie de tous les jours? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que ce n'est que la pénétration? Est-ce que c'est que... moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. J'ai appris à satisfaire ma partenaire sans pour autant utiliser mon sexe. Il y a plein d'autres moyens. Être plus appliqué, être plus attentionné, penser à l'autre. J'en avais conscience, mais pas autant certainement. Je pense que les choses m'ont fait évoluer. J'ai appris aussi à avoir un orgasme interne de plaisir sans pour autant éjaculer. Ça a été une très belle découverte. Depuis qu'il s'est passé tout cela, je ne sais pas si je suis un meilleur amant, mais j'essaye, quoi qu'il en soit, de la satisfaire. Et effectivement, je pense qu'elle en est satisfaite. Je l'espère en tout cas. Moi, je suis heureux de lui faire avoir un magnifique orgasme, bien entendu. Oui, j'en suis fier. Je suis très content. Et là, je me sens homme.
C'était l'Andropause, et bien bandé maintenant, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 mars 2021. Merci à Marc, Victor, Gilles, au docteur Carole Burté et à Mélissa Fouss qui était attachée de production de l'époque. Notre attachée de production pour l'instant, c'est Valentin Rémy et c'est Luce Morand, notre stagiaire.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
Et si l'art contemporain faisait vibrer votre été ? À Rennes, Exporama vous embarque dans un tourbillon de création. Expositions, installations en plein air, parcours urbains et rencontres insolites. Deux temps forts à ne pas manquer. Les yeux dans les yeux, portrait de la collection Pinault au couvent des Jacobins. Et Entre la mémoire et l'oubli de Claire Tabouret au musée des Beaux-Arts. Une aventure artistique ouverte à toutes et tous. Exporama, c'est tout l'été à Rennes, un événement France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors écoutez, je préfère être franc avec vous. Nous sommes, et ça c'est absolument certain, le mardi 17 juin 2025. Demain, vous pourrez commémorer l'appel du 18 juin, parce que nous serons donc le 18 juin. En attendant, nous allons évoquer des événements moins heureux, parce que c'est l'actualité. L'actualité est dominée, bien entendu, par le conflit entre Israël et l'Iran. On va revenir longuement là-dessus, sur le nucléaire iranien et sur la fabrication d'une bombe nucléaire, ça sera dans une dizaine de minutes. Et puis on évoquera la société iranienne aux prises avec la guerre. En attendant, il est 6h30 sur France Culture. Bon réveil à tous, le premier journal, celui de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le G7 veut une résolution de la crise en Iran et qu'elle amène une désescalade dans la région. Nous irons en Israël où la population se met à l'abri. Le point sur le conclave consacré aux retraites, il devrait se terminer aujourd'hui. Les opposants à la réforme veulent toujours l'abroger. Se pose la question d'une éventuelle censure du gouvernement, peu probable à ce stade, vous l'entendrez.
Et puis je vous l'ai dit, dans les enjeux internationaux, on se demandera comment fabriquer une bombe nucléaire. On parle évidemment tous les jours en ce moment des détails précis avec Thomas Fraise dans quelques instants.
L'Iran promet de frapper Israël sans interruption jusqu'à l'aube. Cinquième nuit de guerre entre les deux pays avec un bilan toujours provisoire. Au moins 224 morts côté iranien, 24 côté israélien dans les représailles de Téhéran. Ce matin, les sirènes d'alerte ont retenti dans l'État hébreu, dans le nord notamment. Mais au bout de quelques minutes, les habitants qui ne dorment que d'un œil ont été autorisés à quitter leurs abris. Et pour ceux qui n'en ont pas, il faut trouver des solutions, Thibault Lefèvre.
Michal tient à bout de bras deux cabas remplis d'habits jetés à la hâte.
J'ai pris mes affaires, des t-shirts, des shorts et puis des trucs utiles. C'est tout.
Cet étudiant vit au rez-de-chaussée d'un petit immeuble des années 50 au cœur d'un quartier populaire. Dans la nuit de samedi à dimanche, un missile est tombé à moins de 300 mètres de chez lui. Les vitres sont soufflées, la porte défoncée et le logement est désormais inhabitable.
Tout est détruit. Ce n'est plus possible de rester. On va à l'hôtel. Ici, ce n'est plus un endroit sûr. Alors on part ailleurs.
Après cinq nuits de bombardement, des milliers de déplacés n'ont donc plus de toit. Et beaucoup d'autres, comme Karen, une habitante de Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, ne veulent plus dormir chez eux.
Je me suis préparée en fait, ce que j'avais jamais fait. Donc j'ai acheté de l'eau, j'ai acheté des conserves. J'ai préparé un sac à dos avec un peu de vêtements, une brosse à dents. Et en fait, le sac est à côté de la porte. Comme je n'ai pas d'abri dans mon immeuble, du coup, j'ai des amis qui ont un appartement avec une safe room, une chambre fortifiée. Ça fait trois nuits que le soir, je vais dormir chez eux. Par rapport aux menaces précédentes, le Hamas ou les Houthis, on parle de missiles, de gros missiles qui font beaucoup de dégâts, il y a des morts. Depuis que l'Iran a répliqué, il y a des morts. Ça fait peur quand même.
Une peur qu'elle n'a, dit-elle, jamais connue avant. Parce que pour la première fois, la défense antiaérienne israélienne, pourtant réputée infaillible, laisse passer des missiles.
Emmanuel Macron appelle à cesser les frappes contre les civils en Iran comme en Israël. À cause de la situation au Moyen-Orient, Donald Trump, présent comme Emmanuel Macron au G7 au Canada, a finalement décidé hier de quitter le sommet prématurément. Il vient de prendre l'hélicoptère. Le président des États-Unis devait rester une journée de plus. Tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran, a-t-il aussi prévenu sur son réseau social. Pendant trois mois, France 24 et RFI sont interdits d'antenne au Togo, accusé d'avoir relayé des propos inexacts et tendancieux après des manifestations qui ont secoué le pays au début du mois. La diffusion de ces médias publics français en Afrique de l'Ouest se réduit encore un peu plus. Au Mali, Burkina Faso et Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires, ils sont déjà suspendus depuis plusieurs années.
6h33 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Il y avait déjà eu 17 victimes en Outre-mer à cause d'airbags défectueux. Il y en a désormais deux en métropole. C'est une information de la cellule investigation de Radio France.
Oui, une femme de 38 ans est morte la semaine dernière après un accident sur la rocade de Reims. Une adolescente de 14 ans se trouvait aussi dans la voiture. Elle a été légèrement blessée. Toutes les deux circulaient à bord d'une Citroën C3 datée de 2014, Anne-Laure Barral.
Selon nos informations, la victime n'avait pas reçu de courrier de Citroën pour l'inviter à changer son airbag. Fin janvier, Stellantis avait lancé des rappels pour des C3 et des S3 dans le nord de la France. Mais quelques semaines plus tard, suite à un test sur un airbag près de Nantes, le constructeur annonce qu'il faut cesser immédiatement de conduire 236 000 véhicules, des modèles de 2009 à 2013. À une année près, la victime aurait-elle pu être prévenue ? Les enquêteurs ont pourtant constaté qu'elle était bien concernée par un de ces airbags potentiellement mortel de la marque Takata, installé sur des millions de voitures dans le monde, alors que le fabricant, qui a fait faillite, a été condamné en 2017 pour avoir caché la dangerosité de son dispositif contenant une capsule qui se dégrade dans le temps et peut envoyer des éclats de métal sur le visage du conducteur en cas de choc, même à faible vitesse. Le procureur de Reims a transmis le dossier à la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, chargée d'enquêter sur ce vaste scandale qui touche une trentaine de constructeurs comme Stellantis, mais aussi Toyota ou Volkswagen.
Le rapport de la commission parlementaire sur les essais nucléaires en Polynésie française sera publié ce matin et il préconise une meilleure indemnisation des victimes, révèle France Culture. Parmi les 45 propositions, les élus visent notamment le seuil de radiation auquel toute victime a dû être exposée, seuil jugé très restrictif et qui, d'après nos informations, n'a pas de valeur scientifique pour mesurer la contamination de la population. Reportage à suivre dans le journal de 7h. Le conclave sur les retraite est prévue pour se terminer aujourd'hui, mais François Bayrou s'est dit prêt à le rallonger de quelques jours. Au début, tous les partenaires sociaux étaient réunis. Désormais, il n'en reste que trois, la CFTC, la CFDT et le MEDEF. Alors, si un accord est trouvé, ce sera à minima. Ni le gouvernement, ni le MEDEF ne veulent revenir sur l'âge de départ à 64 ans. Les pistes envisagées évoquent un départ en retraite anticipé pour certaines catégories de salariés, ceux en situation de handicap notamment. Le Premier ministre a par ailleurs proposé la prise en charge par l'État d'une partie du salaire des personnes en âge de partir et qui décideraient de rester au travail. Les forces politiques d'opposition continuent de réclamer l'abrogation de la réforme, Stéphane Robert.
Le Parti socialiste est divisé sur l'éventualité d'une censure du gouvernement Bayrou à l'issue du conclave sur les retraites. Pour nous, l'abrogation de la réforme et le retour à 62 ans reste un objectif sur un cadre socialiste. Maintenant, si la CFDT passe un accord avec le MEDEF, même un accord à minima, il sera difficile de ne pas l'entériner, reconnaît cet élu. Tant les liens restent forts avec le syndicat réformiste. Par ailleurs, chez les militants, tout le monde n'est pas d'accord avec la censure. C'est ce qui est apparu à l'occasion du congrès qui vient de s'achever à Nancy. Beaucoup craignent que la chute de l'actuel gouvernement génère une nouvelle période d'instabilité dont il pourrait être tenu comptable. Quoi qu'il en soit, nous allons voir ce qui sort du conclave et ce que propose le gouvernement. Et ensuite, nous allons nous réunir et discuter, tranche un député. Si la question se pose au sein du groupe socialiste à l'Assemblée, elle se pose également au Rassemblement national. Bien sûr que le RN réclame l'abrogation de la réforme des retraites votée en 2023. C'est une réforme injuste, rejetée par la population, explique un député du parti à la flamme. Mais est-il opportun de censurer à ce stade et sur cette question ? Ça reprend cet élu, ce sont Marine Le Pen et Jordan Bardella qui en décideront. Or, le président du Rassemblement national indiquait hier sur RTL que la question de la censure se posera à l'occasion des discussions sur le budget, c'est-à-dire à l'automne, ce qui a priori laisse quelques semaines de répit à François Bayrou et à son gouvernement.
Stéphane Robert, Météo France prévoit du soleil partout dans l'Hexagone et une nouvelle vague de chaleur, jusqu'à 29 degrés cet après-midi à Paris et Lyon, 31 à Bordeaux. 6h38 ou presque, tout de suite Guillaume, les enjeux internationaux.
Merci beaucoup Margot Delpierre.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et ces enjeux internationaux, j'ai décidé de les consacrer à la bombe nucléaire. Comment en fabriquer une ? Bref, essayer de répondre à toutes ces questions qui se posent, bien entendu, suite aux actualités en Iran. Bonjour Thomas Fraise.
Bonjour.
Vous êtes politiste, post-doctorant à l'université de Copenhague. Au Danemark, tout d'abord, une définition, qu'est-ce qu'un État du seuil nucléaire, donc c'est ainsi que l'on évoque l'Iran. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors, un État du seuil nucléaire, en fait, ce dont on parle, c'est un État qui possède la capacité, les compétences techniques et les matières fissiles pour réaliser un programme nucléaire, mais qui ne montre pas, en fait, de désir de continuer dans cette voie. Généralement, en fait, ce sont des États qui ont un programme nucléaire civil très développé, qui vont utiliser des réacteurs à uranium enrichi et qui ont donc développé une capacité à enrichir la matière fissile à 60%. Typiquement, c'est l'Allemagne, c'est aussi l'Iran, on peut parler de l'Australie, du Japon. Il y a tout un ensemble d'États, dans ce cas-là, qui sont en fait dans la compétence technique de développer des armes nucléaires, mais n'en ont pas encore ce désir, ou n'en ont pas du tout ce désir.
Alors, on va essayer de détailler les choses. Est-ce que sur le plan de la compétence, est-ce si difficile d'être compétent dans ce domaine, puisqu'on entend qu'il y a aujourd'hui des cibles qui sont des ingénieurs dans ce domaine-là? Sont-ils si précieux que cela? Est-ce que c'est vraiment une compétence rare, Thomas Fraise?
Alors, pas exactement. En fait, il faut vraiment garder en tête que l'arme nucléaire, fondamentalement, c'est une technologie des années 40. Le premier élément qui sera essentiel pour la réalisation d'un programme nucléaire, c'est vraiment l'existence d'une volonté politique. Et c'est pas quelque chose qui va de soi. Du reste, il n'y a pas grand-chose qui soit encore réellement secret à propos des bombes nucléaires. Leur design, c'est quelque chose qui est relativement connu. Les éléments les plus connus, les plus basiques ont été diffusés dans les années 40, à partir même de 1945, par les États-Unis eux-mêmes. Globalement, il est possible pour un amateur de designer une arme nucléaire quasiment dans son garage, à l'exception d'un élément qui serait absolument crucial, qui est la matière fissile. Et ainsi que le détonateur à base d'explosifs conventionnels qui doit exploser de manière extrêmement précise pour compresser correctement la matière fissile et produire une réaction en chaîne. Et c'est la même chose pour le design basique des armes thermonucléaires qui a été diffusé dans les années 70 par Howard Morland, qui était un journaliste qui cherchait à montrer...
Il faut distinguer, pardonnez-moi Thomas Fraise, comme vous êtes en duplex, il faut distinguer d'ailleurs ce qu'est une bombe nucléaire et une bombe thermonucléaire.
Oui, tout à fait, effectivement. Une arme thermonucléaire et une bombe nucléaire se distinguent par leur capacité de destruction. Une arme nucléaire, c'est une arme à fission qui va utiliser du plutonium ou de l'uranium enrichi pour produire une réaction en chaîne et dégager de l'énergie. C'est ce qui a été utilisé, par exemple, à Hiroshima et Nagasaki. On peut monter assez haut en puissance avec ces armes nucléaires, mais les armes thermonucléaires vont fonctionner à partir de fusion nucléaire. Et là, on utilise d'abord une réaction nucléaire, une première explosion nucléaire pour créer de la fusion nucléaire dans un élément plus léger, généralement le lithium. Et la différence, c'est la capacité de destruction qui peut être des centaines de fois plus puissante pour une arme thermonucléaire. Il n'y a pas en fait de limite théorique à la capacité de destruction d'une arme thermonucléaire.
Mais alors, effectivement, si on essaye de prendre une sorte donc de réflexion un peu scabreuse, mais la bombe atomique qui a été utilisée à Hiroshima était terriblement meurtrière. J'imagine qu'il y a eu des progrès, mais d'ores et déjà, une bombe telle que celle-là pourrait être terrible si elle était employée. Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'il s'agit de reproduire une bombe identique à celle qui a été utilisée au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale?
Alors, il semble que les programmes nucléaires commencent par des armes nucléaires du type de celles qui ont été utilisées au Japon. Pour développer une arme thermonucléaire, il est nécessaire d'avoir d'abord des armes nucléaires. Donc on est sur ce modèle-là, généralement, d'explosifs.
D'accord, donc en fait, on pourrait utiliser celle-là. On a vu donc la question de la compétence. Vous avez dit que finalement, on était sur des schémas qui étaient aujourd'hui bien connus. Il faut trouver en revanche du combustible. Ça, c'est compliqué?
Oui, c'est plutôt compliqué. En fait, c'est plutôt compliqué. C'est un problème surtout d'échelle industrielle. En fait, la technologie nécessaire, encore une fois, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les centrifugeuses ont énormément progressé à travers le
siècle. Qu'est-ce que c'est qu'une centrifugeuse? Parce qu'on entend toujours ce mot.
En fait, une centrifugeuse, c'est une machine qui va permettre de séparer l'uranium 238, qui est l'uranium naturel que l'on peut miner, de l'uranium 235, qui est l'uranium enrichi. Dans la nature, on trouve en fait seulement 2 à 3% d'uranium 235 par kilo d'uranium 238. Et pour réaliser une explosion nucléaire ou pour réaliser un réacteur nucléaire, pour pouvoir faire fonctionner un réacteur nucléaire, ce qu'il faut, c'est de l'uranium 235 qui est fissile. Et en fait, une centrifugeuse va permettre de séparer ces deux éléments parce que l'un est plus léger que l'autre en les faisant tourner de manière à réaliser cette séparation et donc à récupérer cet uranium 235.
Et alors, apparemment, l'Iran en aurait des milliers de centrifugeuse. Il faut ça pour réussir à constituer le combustible.
Exactement, oui, il faut ça. Il faut ça, en fait, pour réaliser le combustible à 60%, qui était jusqu'ici l'objectif de l'Iran, qui est 60%, qui est un objectif qu'on utiliserait pour réaliser des réacteurs nucléaires. On ne peut pas produire d'armes atomiques avec de l'uranium enrichi à 60%. Il faut l'enrichir à 90%. Il faut diminuer au maximum la proportion d'uranium-238. Mais il faut quand même noter que le temps que l'on met pour passer de 2 à 3% à 60% est beaucoup plus long que celui que l'on met pour passer de 60 à 90%. Parce que quand on est à 60%, finalement, il est rapide de passer à... Il reste plus beaucoup moins d'uranium-238 en trop. Et aujourd'hui, on estime que l'Iran possède environ 408 kilos d'uranium à 60%, ce qui permet de réaliser une dizaine de bombes si on devait passer à 90%, parce qu'on estime ce qu'on appelle la quantité significative de matière fissile nécessaire pour réaliser une arme nucléaire, c'est 25 kilos.
Pourquoi faut-il de l'uranium à 90%? Parce que 60%, donc la réaction nucléaire qui est déjà présente dans une centrale nucléaire, elle produit énormément d'énergie, donc pourquoi faut-il l'enrichir encore, cet uranium?
Parce que vous voulez que l'énergie qui soit produite dans une réaction nucléaire, dans un réacteur, n'a pas vocation à être finalement illimitée et à produire une explosion. L'intérêt, c'est de pouvoir la contrôler. Pour pouvoir réaliser une explosion nucléaire, il faut qu'il y ait un maximum de neutrons secondaires qui soient produits, qui puissent ensuite creuser une réaction en chaîne en allant se projetant contre d'autres atomes et en réalisant d'autres réactions de fission. Et donc, en fait, 90%, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est critique pour réaliser cette réaction en chaîne explosive.
Et alors, ces matières-là, elles ne se trouvent pas sur le marché libre. Quels sont les pays qui peuvent vendre de l'uranium ou en tout cas aider à en acheter?
Alors, elles ne sont pas sur le marché libre. Il y a un marché qui est extrêmement codifié et régulé. Notamment, les États-Unis peuvent en fournir à d'autres États, mais dans des contextes extrêmement précis qui vont être contrôlés, inspectés par l'AIEA. On a pu évoquer pendant un temps la possibilité d'un marché noir des matières fissiles qui n'a pour l'instant jamais vraiment fait ses preuves en matière de capacité à produire des armes nucléaires. Ce qui est nécessaire finalement pour un État qui souhaite produire ses armes nucléaires, c'est de réaliser sa production de matières fissiles sur son territoire, loin des frappes d'adversaires potentiels.
Et ça veut dire que l'Iran, par exemple, dispose de sources d'uranium?
Alors ça, je ne saurais pas vous dire exactement quelle est la nature des sources d'uranium de l'Iran. Mais effectivement, l'uranium n'est pas non plus un minerai qui est extrêmement rare. On en trouve en France, exactement, tout à fait. Dans le Massif central, en France, on en a des mines. Je ne saurais pas vous dire la mesure des réserves d'uranium naturel de l'Iran. Mais il y a un marché d'uranium naturel qui est tout de même moins régulé que le marché de l'uranium enrichi.
Bon, une fois qu'on a donc ces différentes composantes, des gens compétents, des centrifugeuses, des installations, puisqu'il faut des installations particulières et celles-ci doivent être protégées pour les raisons que l'on imagine, quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une bombe? Parce qu'il y a donc ces 400 kilos de matière enrichie à 60%, ça apparemment tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut encore beaucoup de manipulations pour aboutir à une bombe?
Tout de même, oui. Alors, en fait, il y a d'abord cette partie du design qui doit être réalisée. Évidemment, il faut réaliser un design qui explose. Il faut aussi réaliser un design qui
Qu'est-ce que vous appelez un design? En fait, c'est un processus, un procédé.
Un prototype d'ingénierie qui permet de mettre en relation tous ces différents éléments, le détonateur, l'explosif, la matière fissile, de manière à réaliser un objet explosif, mais une véritable bombe qui puisse être transportée par un missile, par un avion, jusqu'à une cible. Ce qui est tout l'enjeu. Parce que réaliser simplement un objet explosif, disons, un engin explosif, demande beaucoup moins d'efforts que de réaliser une bombe qui peut être produite en masse et qui peut même être miniaturisée pour être mise sur un missile. Encore que ce ne soit pas forcément nécessaire, on peut l'imaginer réaliser ce qu'on appelle des bombes à gravité, c'est-à-dire des bombes qui vont tomber d'un avion, qui demande moins de technologie qu'un missile nucléaire, mais qui demande en fait tout un autre effort industriel. Ensuite, il y a l'effort nécessaire pour transformer la matière fissile, en faire un noyau d'uranium, qui soit adapté. Et ensuite, il y a sans doute différentes étapes de stockage pour que celle-ci soit dans des endroits sûrs et qu'il n'y ait pas d'explosion accidentelle.
Et alors, là aussi, il est impensable qu'un pays vende ces objets, alors tout ou partie, je ne sais pas si, ces objets seraient vendables en kit ou alors tout achevé, qu'il s'agisse donc de pays comme la Russie, la Chine qui sont proches de l'Iran, ou alors d'États voyous comme par exemple la Corée du Nord.
Ce n'est pas impensable, c'est jamais vraiment impensable, c'est difficilement imaginable que l'on fournisse l'ensemble de la technologie permettant de miniaturiser des têtes nucléaires à un autre État. En partie pour différentes raisons de sécurité et pour différentes raisons de compétition entre les États. Maintenant, c'est des technologies qui peuvent aussi s'obtenir par l'espionnage et il y a beaucoup de choses qui peuvent être obtenues sans doute sur le marché. Mais une arme nucléaire qui serait donnée en kit à un État est très difficilement imaginable, même si on a vu des formes de coopération. Typiquement, tous les États nucléaires actuels ont obtenu leur arme nucléaire grâce à la coopération d'autres États dotés. La France a aidé l'Afrique du Sud, la France a aidé l'Inde, a aidé Israël, les États-Unis ont aidé le Royaume-Uni, la Russie a aidé la Chine, et ensuite, à la fin de la guerre froide, des scientifiques russes ont sans doute aidé la Corée du Nord de manière plus privée.
Et alors, dernière question, Thomas Fraisse, les essais nucléaires, est-ce qu'ils sont importants ou ils sont là pour faire de la communication et pour prévenir le monde entier que l'on dispose d'une arme nucléaire ?
Alors, ils sont importants parce que cette communication et prévenir le monde entier qu'on a une arme nucléaire, c'est important. C'est
bien sûr. Mais sur le plan scientifique
Sur le plan scientifique, pas vraiment aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de réaliser une bombe à fission du type Hiroshima ou Nagasaki et de tester ces armes. Israël, a priori, n'a jamais testé ses armes nucléaires. On a un doute sur un incident en 1979. L'Afrique du Sud, qui possédait un petit arsenal de 6 têtes nucléaires qui ont été démantelées, n'a a priori jamais vraiment réalisé d'essais. On peut imaginer un État qui possède des armes nucléaires, mais qui ne les teste pas. Pour des armes thermonucléaires, c'est beaucoup plus difficilement imaginable.
Merci beaucoup, Thomas Fraisse. Je rappelle que vous êtes post-doctorant à l'Université de Copenhague. Dans quelques instants, on va vous éclairer grâce à des poissons lanternes. 6h51 sur France Culture.
Populariser la connaissance, passer le savoir, comment le dire ? Vulgariser les sciences, une histoire.
Xavier Mauduit.
C'est la science à la vitesse des lumières avec Émilie Duchâtelet. Et c'est une astronomie populaire avec Camille Flammarion. Une histoire de transmission donc, qui nous conduit à l'école d'Augustine Fouillé pour le Tour de France par deux enfants et vers un passeur d'histoire quand Alain Decaux explore le temps.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Que révèle une œuvre quand un autre regard la reproduit ? Des artistes contemporains choisissent des chefs-d'œuvre du Louvre pour les copier à leur manière. Un jeu de reflets, de détournements et de récréations. Une exposition qui bouscule notre regard sur l'original, la mémoire et l'acte de création. Copiste jusqu'au 2 février 2026 au Centre Pompidou Metz. Une exposition France Culture.
6h52 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alexandra Delbo, bonjour.
Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous allez éclairer notre lanterne. Non, vous allez parler de poissons lanternes qui, au sud du globe, sont prises au piège.
Oui, les poissons lanternes sont de petits poissons qui ont la particularité d'être bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils produisent naturellement de la lumière. Alors attention, il ne faut pas les confondre avec les baudroies abyssales. Si les poissons lanternes migrent parfois très profondément, jusqu'à 1000 mètres la journée, ils sont plus petits et ils n'ont pas de grosses lanternes tombantes, mais des photos forts répartis tout le long de leur corps qui s'ajustent à la lumière ambiante et les aident à se fondre dans le décor. Au total, plus de 200 espèces de poissons lanternes parcourent l'océan, mais elles ne sont pas réparties uniformément. Camille Rins est chercheuse doctorante au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et dans le laboratoire Boréa à la station marine de Dinard.
On les trouve dans vraiment tous les océans sur la planète. Donc c'est une famille qui est très représentée partout, dans toutes ces profondeurs-là. C'est même la famille la plus importante en termes d'abondance. Quand on regarde les poissons dans ces profondeurs-là, c'est les poissons lanternes qui dominent en fait. Et voilà, on les trouve vraiment dans tous les océans. On pourrait penser que l'océan a une très grande connectivité, puisque tous les océans sont reliés. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup de plus en plus qui émerge, qui est « one ocean », pour dire un océan unique, qui fait vraiment référence au fait que tous les océans sont reliés. Mais malgré tout, on ne retrouve pas les mêmes espèces dans l'océan Antarctique et à l'autre extrémité, dans l'océan Arctique. Il y a quand même des facteurs qui vont faire que les espèces s'organisent dans des communautés bien particulières. Et nous, on s'intéresse à étudier comment ça s'organise en communauté et à quoi c'est dû.
Et parce que ces poissons s'organisent en communauté, une analyse uniquement par espèce, comme c'est le cas habituellement, n'est pas judicieuse. On louperait des informations. C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans Global Change Biology a mené une analyse biogéographique pour comprendre la répartition des espèces de poissons lanternes et comment les communautés sont affectées par le changement climatique.
Mais oui, et deux communautés particulières ont attiré l'attention des scientifiques, Alexandra.
Oui, une communauté subtropicale de 73 espèces et une autre communauté dite australe de 19 autres près du pôle sud. Résultat, il existe une barrière thermique aux alentours de 8 degrés, un mur invisible qui sépare les deux communautés.
On a vu qu'elles avaient toutes la même limite de tolérance de température. Par exemple, les poissons de la communauté australe, elles avaient toutes cette limite maximum qui était située autour de 8 degrés. Au-dessus, on retrouvait jamais ces espèces-là. Et inversement, les poissons lanternes de la communauté subtropicale, on les a trouvés jamais en dessous de cette température-là d'environ 8 degrés. Ensuite, on a aussi fait des modèles et ça a confirmé le fait que c'était vraiment que la température qui jouait, qu'il n'y avait pas d'autres facteurs qui entraient en jeu dans cette distinction entre les deux communautés. Et donc, avec le changement climatique, on s'attend à ce que globalement, toute la planète se réchauffe et donc l'océan se réchauffe globalement. Et donc, la barrière des 8 degrés va être de plus en plus proche du pôle. Et donc, en fait, avec ce réchauffement, les poissons de la communauté subtropicale qui avant pouvaient pas atteindre certaines zones qui étaient trop froides pour eux, ils étaient pas adaptés pour survivre à des conditions aussi extrêmes, et bien ils vont pouvoir avoir accès à de nouvelles zones, de nouvelles régions qui se réchauffent. Et au contraire, les poissons de la communauté australe qui sont adaptés aux eaux froides et qui supportent pas les températures un peu plus élevées, et bien ils vont devoir se déplacer vers le pôle pour rester à des températures qui leur conviennent.
Selon leurs projections, l'habitat des communautés australes pourrait perdre 11 millions de kilomètres carrés, soit, à titre de comparaison, plus de 80% de la superficie du continent antarctique. Les poissons lanternes, parce qu'ils font ces très grandes migrations entre les fonds marins et la surface, sont des membres indispensables de la chaîne alimentaire marine. Ce sont des prédateurs du krill, ces petits crustacés, et des proies des grands prédateurs, comme les mammifères ou les oiseaux marins. Pour limiter le déplacement de cette barrière thermique, la seule véritable solution reste évidemment la lutte contre le changement climatique, mais à plus court terme, la création d'aires marines protégées pourrait permettre de réduire les autres pressions humaines exercées sur ces espèces. La suite de cette étude sera de déterminer quelles zones doivent être protégées en priorité. L'autre perspective est de comprendre quelle sera l'influence de cette réduction d'aires de répartition sur les autres espèces marines.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Alexandra Delbo.
6h56 sur France Culture et c'est l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et ce matin, le billet politique sur les chapeaux de roue.
Oui, j'ai décidé de faire le billet politique ce matin. Jean Lémarie ne m'en voudra pas. Non, un billet politique quand même avec un angle particulier, l'angle automobile. Si vous voulez, ça va être un peu l'autoradio, Alexandra. Alors, qui roule à droite, qui roule à gauche ou plus exactement, dans quelle voiture devez-vous rouler en fonction de votre appartenance partisane, si vous êtes à droite ou si vous êtes à gauche. L'idée m'en est venu grâce au Figaro du jour. Le Figaro du jour est consacré au choix du chef de l'État en matière de bagnole. Alors c'est assez simple, hein, Alexandra. Renault ou Citroën, explique le Figaro. Renault et Citroën se disputent les faveurs du chef de l'État et celui-ci hésite entre la Renault Rafale et la Citroën DS8. Je ne vous demanderai pas vous de choisir parce que je vais vous embarrasser. Mais c'est une manière de transporter le et en même temps sur le terrain automobile, comme s'il restait encore un domaine où Emmanuel Macron voulait se dire à la fois de droite et de gauche, là je laisse chacun dans sa conscience répondre, voilà, il en existe encore un et c'est l'automobile. Voilà donc Emmanuel Macron qui ne sait pas s'il doit rouler en Renault ou en Citroën, ce qui montre le malaise dans la 5e, je parle bien sûr de la 5e République, pas de la 5e vitesse, ça fait longtemps que les voitures ont une 6e vitesse alors qu'en matière de constitution, bref, vous voyez, elle se fait attendre, mais je m'égare. Donc, je reviens à mon sujet. Que choisir entre une Renault et une Citroën? Jusqu'ici, les choses étaient très simples, Alexandra. La droite roulait en Citroën, vous savez, les notaires, les médecins, etc. La gauche, les profs, les fonctionnaires en Renault. Même Chirac, au temps de la fracture sociale, quand il essayait de se faire passer pour quelqu'un de gauche, roulait en CX. Mon général, évidemment, il était en DS, mais pas en DS8. Mitterrand était en Renault. Et puis les plus chanceux d'entre nous se souviennent du cabriolet Renault de Jospin. Bref, tout était simple. La gauche en régie, Billancourt, etc., Renault. La droite en société anonyme Citroën. Mais voilà! Dans quelle voiture aujourd'hui, comme vous savez qu'on est de plus en plus dans un système tripartite, dans quelle voiture peut rouler l'extrême droite? Une question de moins en moins théorique. Bon, vous comprenez pourquoi au vu des équilibres électoraux. Et c'est là que le jeu change, un game changer comme on dit en anglais, grâce à Tesla et Elon Musk. La marque Tesla, m'apprend Libération, a été assignée en justice par des dizaines de clients parce qu'ils en ont marre, je les cite, de rouler dans des totems d'extrême droite. Alors, admettons, bon, pour eux, apparemment, c'est embêtant. Pour l'extrême droite, c'est une vraie bonne nouvelle, en revanche, parce que l'extrême droite a désormais sa marque. La droite en Citroën, je récapitule, la gauche en Renault, et l'extrême droite pourrait opter pour Tesla, comme on dit dans le domaine automobile. Voilà un créneau de prix.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, on va revenir bien sûr sur cet affrontement entre Israël et l'Iran. On va s'intéresser à cette société iranienne et notamment essayer de comprendre si la guerre avec Israël peut ébranler le régime des Mollahs, peut-être même le faire tomber. On va en parler avec Azadeh Khian, qui est une sociologue franco-iranienne, professeur de sociologie à l'Université de Paris-Cité, et Clément Terme, qui est historien des relations internationales et spécialiste de l'Iran. En attendant, il